France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
On vous écoute, Christophe.
Lors d'une retraite que j'effectuais chez les bénédictins, je tombais un jour dans la bibliothèque du monastère sur un drôle de livre. J'ai oublié son titre, ça devait être quelque chose comme « Cheminer vers Dieu », mais j'en suis pas tout à fait sûr. Par contre, je n'ai pas oublié son auteur. Un moine chartreux. Pas de nom d'auteur. Je tourne le livre dans tous les sens en me disant que je finirais bien par trouver quelques informations sur cet auteur si discret. Mais non, rien de plus. Alors, un petit vertige me saisit. Tout le monde se dit modeste, mais finalement, personne ne l'est véritablement. Même le fait de se montrer modeste peut nous flatter, comme le note Jules Renard dans son journal « Je m'enorgueillis de ma modestie ». Personne ou pas grand monde n'est véritablement prêt à renoncer à toutes ces petites miettes d'estime de soi. Le moine qui avait écrit ce livre avait réussi, lui, à mettre à distance cette gratification sociale, à voir son nom sur une couverture de livre. Moi qui ai le sentiment, peut-être erroné, d'être plutôt modeste, j'avoue qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit de publier un livre portant sur la couverture la seule mention « un psychiatre » à la place de mon nom d'auteur. Le génial Milan Kundera rêvait de cela lui aussi et déclarait un jour « Je rêve d'un monde où les écrivains seraient obligés par la loi de garder secrète leur identité et d'employer des pseudonymes. Trois avantages. Limitation radicale de la graphomanie. Bah oui, on écrirait peut-être moins de livres si notre nom n'était pas sur la couverture. Diminution de l'agressivité dans la vie littéraire. Bah oui, personne ne saurait qui a écrit le bouquin, on nous foutrait la paix. Disparition de l'interprétation biographique d'une œuvre. Ça, c'était Kundera, il ne voulait pas qu'on fouille dans sa vie personnelle. C'était pas mal vu. Mais il n'y a pas que les auteurs qui veulent afficher leur nom. Il y a aussi les nobles, les princesses, les ducs et autres baronnes, bien souvent prompts à mettre en avant leur lignée pour en rappeler l'ancienneté et l'excellence. C'est Alphonse Allais qui disait « Être monsieur de quelque chose, ça pose son homme. Comme être de Garenne, ça pose son lapin. » Et mon grand-père communiste me rappelait souvent quant à lui ce vieux proverbe sévenol pour moquer un petit peu gentiment les prétentions nobiliaires autour des noms de famille. « Avec un œuf, on fait trois nobles. » Monsieur de la coquille, Madame du jaune, Mademoiselle du blanc. Et il concluait, on s'en fout du nom de famille. Nous appartenons tous à une seule famille, l'humanité.
Marseille, cosmopolitan, héros, tous unis, tous ensemble. On n'est pas des milieux sur Terre, on est des milliards. Black, blanc, beurre, tout le monde c'est la famille.
C'est la première fois que je vois danser Christophe André.
Ça danse.
Je n'en reviens pas.
Je suis monté sur la table. Non, non. Bon, alors c'est vrai, on est tous frères et sœurs d'une même famille humaine, mais quand même, ça peut être normal de bien aimer son nom. Hérité ou choisi. D'abord parce que c'est un outil incontournable dans nos relations sociales. Souvenez-vous, les cours de récré le jour de la rentrée scolaire. Comment tu t'appelles? Ou plus tard, de votre premier accès de vitesse. Vos papiers, s'il vous plaît. Ensuite, parce que notre cerveau est de la partie. Par exemple, si on demande à des volontaires de dire quelles sont leurs lettres préférées, en se débrouillant pour brouiller un peu les pistes, on s'aperçoit que les lettres de nos initiales et plus globalement les lettres composant nos noms et prénoms sont celles que nous aimons le plus. Et ça marche aussi d'ailleurs pour nos dates de naissance exprimées en chiffres. Ainsi, Pilar préfère souvent le Pepsi et Carmen le Coca. Et une personne née en juin jouera plus souvent le 6 au loto qu'une personne née en septembre qui misera plutôt sur le 9. De façon étonnante, cette influence peut aussi s'exercer sur des choix existentiels plus importants, comme ceux de nos lieux de résidence, les noms de rues ou de communes. Pilar, toujours elle, préférera vivre place Pompidou à Paris et Carmen, chemin des carrières à Caen. Bon, vous toutes et vous tous qui m'écoutez, je vous laisse vérifier tout ça. Tenez-moi au courant de vos chiffres et lettres préférées et de leur rapport éventuel avec vos noms et prénoms. Ça m'intéresse et surtout, ça vous dira peut-être quelque chose de votre affection ou de votre aversion pour vos appellations sociales.